Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé, Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Vous le savez sûrement, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme et son dépistage est bien sûr primordial. Les campagnes de sensibilisation sont importantes, notamment pendant Octobre Rose ou à l'occasion de la très récente Journée mondiale du cancer. Mais le cancer du sein, c'est hélas toute l'année et donc le dépistage aussi. Heureusement, les progrès en imagerie, intelligence artificielle, génétique, études cliniques vont et ont amélioré ce dépistage. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des experts incontournables dans ce domaine, le professeur Corinne Balléguier, qui est chef du département d'imagerie à l'Institut Gustave Roussy, Jérôme Nicolet, directeur médical du Centre de dépistage des cancers d'Île-de-France, Julien Lambron, radiologue libéral au Centre Crimée à Paris 19, et Erika Saillant, directrice stratégie et marketing chez GE Healthcare pour la zone France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone. Check-up Santé, c'est parti. Corinne Balléguier, bonjour.
Et bonjour.
Erika Saillant, bonjour.
Bonjour.
Et Jérôme Nicolet, bonjour.
Bonjour.
Julien Lambron, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec Corinne. Corinne Balléguier, vous êtes donc radiologue, chef du département d'imagerie à l'Institut Gustave Roussy. Vous êtes instigatrice aussi d'une étude clinique européenne du dépistage du cancer du sein. On va en parler tout à l'heure. On ne dit plus département de radiologie, mais plutôt département d'imagerie.
Oui, parce que la radiologie a beaucoup évolué, hein, notamment ces 20 dernières années, et elle ne se limite pas au rayon X. Donc il y a de l'échographie, de l'IRM, et dans un service de radiologie aujourd'hui, on a toutes ces techniques-là. Donc en fait, ça va au-delà de la radiologie. Le rôle du radiologue, c'est justement de bien utiliser les bonnes techniques au bon moment, à bon escient, et toujours avec la meilleure qualité et le moins délétère ou nocif pour le patient.
Alors justement, ce cancer du sein, il représente combien de femmes, de patientes par an en France ?
Vous l'avez dit, c'est le premier cancer du sein, ça c'est vraiment important à signaler. En France, on a à peu près plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Donc c'est très important. Ce qui est important aussi à signaler, c'est que la mortalité diminue. Et d'année en année, elle diminue du fait notamment du dépistage, mais aussi de tous les progrès thérapeutiques. Et donc ça, c'est important de...
Heureusement qu'il diminue, puisque ce cancer est en progression, pas constante.
Oui, malheureusement, il est en progression. Alors, il y a plusieurs facteurs. Hein. L'âge, évidemment, puisque c'est le cancer du sein. Plus on avance en âge, plus on a des risques. Mais aussi notre mode de vie, qui est peut-être plus sédentaire aussi. Le surpoids, on sait aussi. Le manque d'activité physique. On a des facteurs familiaux aussi, mais ça représente qu'une toute petite proportion des cancers du sein.
C'est vrai qu'on aurait pu penser que le cancer du sein est assez héréditaire, familial, non ?
Une femme qui a... finalement, ça représente que 5 à 10% de l'ensemble des cancers, donc c'est une toute petite proportion. Après, on a beaucoup plus de connaissances aujourd'hui, on connaît certains gènes qui favorisent, et pour cela, on va faire un dépistage très spécifique qui n'est pas le dépistage organisé.
D'accord. Et puis, ce qui fait que ce cancer une meilleure rémission, c'est qu'il est diagnostiqué plus précocement, c'est ça ? Grâce à l'imagerie.
Grâce à l'imagerie notamment, et notamment quand il est non palpable, c'est-à-dire qu'on ne sent rien, ça c'est vraiment la mammographie qui permet de le dépister, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on guérit beaucoup plus de cancers du sein, donc on estime à 88% le taux de guérison à 5 ans.
Alors Jérôme Nicolet, vous êtes médecin chirurgien, vous êtes aussi diplômé de Sciences Po et ESSEC, alors franchement, bravo, et depuis 3 ans, vous êtes directeur médical du Centre Régional de Coordination des Dépistages des cancers d'Île-de-France. C'est bien ça ?
C'est ça.
Je ne me suis pas trompé ?
Vous avez tout dit.
Parce que c'était long. Hein. Donc c'est un organisme public, c'est ça ?
Alors c'est un organisme qui est de droit privé, mais qui a une mission de service public. Donc on est financé à 100% par l'État, depuis le 1er janvier, par les agences régionales de santé.
D'accord. Et vous collaborez justement avec les radiologues, avec les radiologues hospitaliers, libéraux, comment ça se passe ?
Alors on travaille, surtout pour le dépistage du cancer du sein, avec radiologues, hospitaliers, que ce soit en CHU ou en hôpital général, en centre anticancéreux, et puis avec tous les radiologues libéraux qui ont une part très importante dans le dépistage.
Alors donc vous dépistez pas seulement le cancer du sein, vous dépistez d'autres cancers.
Non, on s'intéresse aussi au cancer colorectal. Bientôt va être Mars bleu, donc beaucoup d'événements autour du dépistage du cancer colorectal sur lequel on a énormément d'améliorations à apporter. Et puis le cancer du col de l'utérus, dont le dépistage a été généralisé fin 2020.
Alors, est-ce qu'il y a une certaine spécificité donc du dépistage du cancer du sein ?
Alors, dans le cancer du sein, il y a une vraie spécificité qui est la collaboration entre les professionnels de santé. C'est-à-dire que les femmes vont recevoir...
Et c'est le thème de cette émission.
Voilà. Donc, les femmes vont recevoir une invitation à se faire dépister. Puis, avec cette invitation, elles vont pouvoir se rendre dans le cabinet de radiologie de leur choix, qu'il soit public ou privé. Et là, la particularité, c'est que les radiologues ont suivi, pour pouvoir faire ce dépistage, ont suivi une formation spécifique. Ils acceptent que leur matériel soit régulièrement contrôlé, deux fois par an. Et puis, ils acceptent d'avoir un seuil pour pouvoir dépister, c'est-à-dire qu'un radiologue qui dépiste doit faire au moins 500 mammographies par an. D'accord. Et puis, la grosse particularité, c'est évidemment que toutes les mammographies qui sont considérées comme normales par le premier radiologue vont être systématiquement revues par un expert. Donc, nous récupérons toutes les mammographies normales et on les fait relire par des experts qui vont permettre de vérifier qu'en effet, il n'y avait pas de lésion. Il faut savoir qu'actuellement, entre 5 et 7% des cancers dépistés le sont par cette deuxième lecture.
Donc vous êtes aussi sollicité par l'assurance maladie, c'est ça qui vous donne les noms des gens à solliciter.
Alors depuis le 1er janvier, c'est l'assurance maladie qui invite les patientes. D'accord. Elle nous transfère également tous les fichiers populationnels, ce qui va nous permettre nous de mettre en place tout le suivi de ces femmes. Parce qu'il ne suffit pas de dépister, il faut savoir ce que ces femmes deviennent. C'est-à-dire que toutes les anomalies, on va suivre les femmes pour savoir quel est le diagnostic final.
Évidemment, on va en reparler. Julien Lombon, donc vous êtes radiologue libéral à Paris 19e, le centre Crimé, c'est ça ?
Exactement.
Alors, comment un radiologue libéral participe-t-il au dépistage du cancer ? C'est vrai que souvent, on vous adresse les patients, mais vous n'allez pas les chercher.
Alors, il faut déjà savoir, le premier chiffre, c'est qu'il y a environ 80% des mammographies de dépistage qui sont faites en radiologie libérale. Donc, le radiologue libéral, c'est un peu la première étape, une fois que la patiente, ou en tout cas la femme, a reçu son invitation envoyée par l'assurance maladie. Donc, la femme va prendre rendez-vous pour passer sa mammographie, donc elle va venir au cabinet, elle va bénéficier de sa mammographie. On va l'interroger, on va faire une palpation. L'examen clinique est une étape très importante dans le dépistage. Et en fonction de ce qu'on va trouver, elle aura plus ou moins une échographie, notamment lorsque les seins sont denses ou lorsqu'on trouve une anomalie. Si le bilan est normal, elle va partir en deuxième lecture, comme a dit Monsieur Nicolet. Et s'il y a une anomalie, dans ce cas-là, elle sort du dépistage et elle va bénéficier d'un bilan diagnostique. Nous, en fait, en tant que radiologue libéral, donc il y a le côté, effectivement, technique de faire la mammographie, mais ça reste quand même de la santé publique, donc on est là en fait pour donner des informations à la patiente, on est là pour essayer de la rassurer, de faire en sorte que ça se passe bien, qu'elle revienne 2 ans plus tard, donc s'assurer qu'elle n'ait pas eu mal, qu'on ait répondu à ses questions, et qu'à la fin en fait elle soit satisfaite d'avoir passé son dépistage, et du fait qu'on lui ait dit que tout allait bien, et qu'elle retienne vraiment comme information que plus le cancer sera pris tôt, plus il sera petit, moins il d'envahissement et plus le taux de guérison sera élevé ensuite avec un traitement qui sera moins lourd.
Oui, Corinne Balayer, justement, ce dépistage il est fait en grande partie par la radiologie libérale, mais aussi évidemment par l'hôpital qui en plus va s'occuper du traitement.
Oui, c'est ça. Alors, effectivement, donc il y a un partage en fait de cette activité entre les radiologues libéraux et radiologues hospitaliers. Ouais. Le dépistage organisé est bien organisé en France, mais le post-dépistage, finalement, n'est pas organisé. Donc, une fois qu'une patiente a une anomalie qui peut être suspecte, à ce moment-là, en général, elle revoit son médecin traitant ou son gynécologue, et des circuits de prise en charge qui sont organisés, donc soit en libéral, en général, on les revoit en imagerie, donc le radiologue a aussi une place très importante pour le bilan, pour faire des biopsies, puisqu'on ne va jamais aujourd'hui prendre une patiente en charge, l'opérer sans une biopsie préalable, très important, et on peut avoir des circuits de prise en charge rapide, comme ce que l'on a organisé à Gustave aussi depuis 20 ans maintenant, sur le diagnostic en un jour des maladies du sein.
On va y revenir. On la met à toutes les sauces, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vraiment elle est d'un apport fondamental dans le dépistage ?
Alors, pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle est en cours d'évaluation. Mm-hmm. Parce qu'elle peut avoir une place à deux endroits. Soit dépister des lésions, en tout cas aider le radiologue en lui pointant peut-être une image sur laquelle il va pouvoir se concentrer. Mm-hmm. Et puis, nous, on s'intéresse à l'intelligence artificielle dans une deuxième partie qui permettrait d'être sûr qu'une mammographie est normale. C'est-à-dire être certain qu'il n'y a aucune lésion sur la mammographie. Mais tout ça, ce sont des travaux en cours qu'un certain nombre de centres de coordination de dépistage mènent et que des centres de lutte anti-cancer mènent également. Mais ça nécessite encore un peu de recul.
Corinne Deliguet, le radiologue ne sera pas cantonné à la correction de vérification au contrôle de l'IA, non?
Non, bien sûr.
Plutôt l'inverse.
Ouais. Et comme l'a dit Jérôme Nicolet, c'est très important que notamment l'IA soit contrôlée par le médecin. Et parce que aujourd'hui, on n'a pas montré que l'IA fait mieux sans une lecture radiologique. Et donc, c'est vraiment un binôme. Après, il y a des avantages à l'IA, il y a des inconvénients aussi, puisque l'IA fait encore beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire des détections d'images qui sont finalement rien du tout, donc que des anomalies bénignes. Donc c'est très important de pouvoir contrôler tout ça.
Mais elle reste quand même présente?
Oui, de plus en plus.
Elle est utilisée de plus en plus, oui.
Et voilà, alors ce n'est pas obligatoire, hein, c'est beaucoup d'initiatives individuelles, mais c'est vrai que de plus en plus c'est intéressant. Ça nous aide aussi à analyser la densité du sein, puisque c'est la quantité de sein. Et aussi maintenant, on a des systèmes d'IA qui peuvent peut-être prédire le risque de développer un cancer dans le futur. Mais pour l'instant, c'est vraiment de la recherche encore, et ce n'est pas de la routine.
Éric Assayant, donc vous êtes directrice stratégie et marketing chez GE Healthcare. GE est depuis de nombreuses années quand même pionnier dans ce domaine, donc de l'imagerie du cancer du sein.
Alors, plus de 60 ans. Mm-hmm. Est-ce que vous saviez que le premier mammographe a été inventé par la Compagnie Générale de Radiologie en 1963 à l'initiative d'un radiologue strasbourgeois?
Donc c'était J'imagine qu'il y a eu quelques progrès depuis.
Il y a eu quelques progrès depuis, mais en fait c'était la petite histoire industrielle, c'était le docteur Charles Gros. Mais c'est fondamental de se rappeler que la première pierre de développement, elle a été faite avec les praticiens. Donc c'est vraiment une première collaboration entre ce docteur qui était aussi mathématicien, physicien, et les équipes de cette Compagnie Générale de Radiologie qui ont développé le premier scénographe qui a pris vie en 1966. Et puis l'entreprise a évolué et puis elle a été intégrée à General Electric Healthcare en 1987. Et aujourd'hui, on est General Electric GE Healthcare. Et on a gardé en fait l'épicentre qui est situé à Buc, à côté de Versailles, dans les Yvelines, où on a des équipes de développement et de production.
Alors justement, quels sont ces progrès? Donc, on va dire ces 10 dernières années, ça va tellement vite qu'on va parler simplement de ces 10 dernières années.
Les progrès dans l'imagerie.
Dans le cancer du sein, bien sûr.
Alors on a fait des progrès même plus que les 10 dernières années, mais on est passé de la mammographie analogique au numérique, on a fait des sauts de la 2D à la 3D, tout récemment la biopsie sous mammographie de contraste. Donc il y a vraiment des progrès en termes d'image, donc c'est-à-dire améliorer la capacité de détection. Mais il ne faut pas oublier, et notamment comme c'est utilisé dans le dépistage, la notion d'améliorer l'expérience des femmes. Les femmes, elles ne sont pas malades quand elles viennent se faire dépister. Donc elles peuvent devenir effectivement des patientes, mais c'est d'autant plus important d'améliorer leur expérience, qu'elle n'est pas mal, et donc de travailler les développements qui vont accompagner la patiente. Et aujourd'hui, nos équipes, alors juste un petit rappel, GE Healthcare, c'est 2800 personnes en France, au plus près partout sur le territoire des équipes soignantes. On a des centres de R&D à Strasbourg, à Grenoble, à Sophia Antipolis. À Buc, il y a 1800 personnes, 600 ingénieurs et chercheurs qui travaillent sur ces développements, 250 techniciens et ingénieurs de production qui les mettent en industrialisation et qui permettent en fait que ces produits viennent en circuit court au plus près des patients. Et on travaille notamment avec l'IGR sur ces développements.
Corinne Balayet, donc vous êtes vous l'instigateur principal ou investigatrice?
Investigatrice, si vous
voulez. Investigatrice principale de l'étude de clinique MyPeps pour la France, qui est une étude européenne, c'est ça? Qui est d'ailleurs pilotée par une de vos collègues à l'Institut Gustave Roussy?
Tout à fait. Donc c'est une étude européenne pilotée au niveau européen par le docteur Suzette Delaloche, qui est oncologue et donc responsable du programme aussi Interception de prévention des cancers à Gustave Roussy. Et donc, 6 pays ont participé à ce dépistage, à cette étude qui promeut le dépistage personnalisé, puisque aujourd'hui, finalement, le critère d'entrée du dépistage dans quasiment tous les pays, c'est l'âge. À partir de 50 ans, on va vous envoyer une invitation. Mais on sait que toutes les femmes ne sont pas égales devant le risque de cancer du sein. Certaines sont plus à risque, d'autres moins à risque. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur, finalement, proposer peut-être un dépistage différent, adapté avec d'autres techniques ou avec un rythme différent selon qu'il y ait plus ou moins de facteurs de risque. Et donc, 6 pays ont participé, dont la France. Donc la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et Israël également. Mm-hmm. Cette étude qui s'est terminée en juillet dernier. Et là,
on
pour l'instant...
On a des résultats, on a des retours ou pas ?
Pas encore, puisque en fait, il y a un suivi qui est très important, puisque les dernières femmes incluses, c'était en donc, juillet 2023, on les suit jusqu'en 2027, donc on n'aura pas de résultats avant fin 2027.
Eh bien, vous reviendrez, ce sera l'occasion pour revenir dans le check-up santé. Jérôme Nicolet, vous l'avez dit tout à l'heure, mais le dépistage, c'est bien chez les gens qui le souhaitent, mais comment solliciter les femmes qui sous-estiment le dépistage ?
Alors ça, c'est un vrai sujet. Il y a deux sujets. D'abord, les femmes à haut risque, mais on l'a vu, comme l'a dit Corinne tout à l'heure, c'est peu de gens, en fait. C'est 5. Mais il y a surtout la population en général. Il y a plus de 10 millions de femmes qui devraient se faire dépister tous les ans. Et moins d'une sur deux participent au dépistage organisé. Alors, il y en a quelques-unes qui font du dépistage dit individuel, parce qu'elles ont un suivi particulier, ou parce qu'elles ont un gynécologue qui les suive. Mais on a quand même plus d'un tiers, voire 40% des femmes qui ne se font jamais dépister.
C'est quoi ? C'est un problème d'accès à la santé ? C'est un problème de...
Alors,
je disais,
dans
de
ce qu'on regarde,
c'est
pas forcément un problème d'accessibilité, enfin de démographie médicale, c'est-à-dire qu'il y a des cabinets de radiologie où il n'y en a pas. C'est plus un problème, des fois, d'accès simple, parce qu'on a une crainte d'aller dans le cabinet de radiologie, parce qu'on a un mauvais souvenir d'une mammographie, parce que surtout on a peur du résultat, et puis on n'a pas pris cette habitude. Donc il y a des multiples facteurs qui peuvent influencer. Donc tout notre travail, c'est évidemment d'aller vers ces femmes pour les inciter au dépistage.
Éric Assier, justement, donc Gigi est un petit peu à l'initiative donc de Mammo Solidaire, donc pour aller vers une population de femmes qui n'a peut-être pas l'occasion ou les moyens de se dépister. Donc avant que vous me répondiez, on va lancer un petit reportage qui a été réalisé par Marine Bossy.
Dépister les femmes ayant des difficultés à l'accès aux soins, c'est l'objectif du Mammo Solidaire. Un dépistage du cancer du sein, réalisé gratuitement pour des femmes de 50 à 74 ans, en situation de précarité.
Dans les Bouches-du-Rhône, il y a environ 20% des patientes qui vivent en dessous du seuil de précarité, et c'est ces patientes qui sont largement sous-représentées dans le dépistage. Donc voilà pourquoi on a mené ce projet Mammo Solidaire, dont le but était double. Déjà, aller au plus près des patientes des quartiers défavorisés. Et le second objectif, c'était de continuer à informer et sensibiliser les patientes sur l'importance du dépistage.
Ce camion, entièrement aménagé, se présente comme un cabinet de mammographie.
On les accueille ici.
À l'entrée, une salle d'accueil et un secrétariat, une salle d'échographie et une salle de lecture.
Si jamais il y a une anomalie ou s'il y a un problème, la patiente est prise en charge directement. C'est nous qui organisons la suite de la prise en charge, qui programmons des rendez-vous s'il y a besoin d'avoir des rendez-vous de biopsie ou s'il y a besoin d'avoir des gynécologues. C'est nous qui organisons tout, on ne laisse pas les patientes seules.
L'enjeu de ce Mammo Solidaire, dédramatiser l'examen. Ici, tout a été conçu pour rassurer les patientes lors de leur consultation. Éclairage doux, écran vidéo et même ce scénographe de dernière génération.
C'est un système qui a été designé vraiment pour améliorer le confort pour les patientes de manière à ce que l'examen se passe dans des meilleures conditions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a la possibilité également de proposer à la patiente une petite télécommande. Donc on invite la patiente à participer à son examen et elle va pouvoir s'auto-compresser.
Sensibiliser les femmes au dépistage, c'est aussi la mission de l'association 7. Pour cette opération à Marseille, ces bénévoles sont allés à leur rencontre dans les quartiers.
Il faut qu'elles sachent si elles ont ou pas un cancer, une tumeur, un kyste, quel qu'il soit, et de savoir et de pouvoir y aller tranquillement. C'est un travail d'équipe qui est fait avec des femmes et on appelle d'autres femmes pour qu'elles viennent. C'est une solidarité humaine qu'il y a et qui se prépare plusieurs jours en amont parce que c'est nécessaire.
Éric Assaillant, un commentaire sur cette géniale initiative ?
Eh ben, je pense que c'est important en fait que Tous les acteurs, y compris des industries comme nous qui sont vraiment engagées sur la mammographie historiquement, par nos équipes qui sont passionnées, de pouvoir contribuer à des initiatives comme celle-ci. Donc nous, notre rôle, notre pierre à l'édifice dans cette opération, ça a été d'amener ce camion équipé, qui est vraiment équipé en fait sur du matériel haut de gamme, dans l'esprit de délivrer les meilleures conditions de travail aux équipes médicales qui vont travailler à bord, et puis de participer à cet écosystème du aller vers. Donc ouais, c'est vraiment, ça vient de la passion. Vous verriez les gens qui sont dans nos équipes, ils ont les yeux qui brillent, aussi bien pour le développement, la production et ces initiatives qui sont vraiment importantes et qui contribuent à notre objectif qui est de créer un monde où la santé n'a pas de limite.
Corinne Dallier, c'est important cette collaboration entre le médecin et un industriel. Est-ce que c'est vraiment concret dans vos deux cas, dans
votre cas? Oui, très important. Donc, on l'a vu, on a donc déjà dans la participation à ces expériences, mais aussi dans le développement des techniques. Et donc, on a la chance que finalement la mammographie avec Generectric soit fabriquée en France, ce qui est assez rare. Et donc, on peut interagir. Donc, on a des manipulateurs, des médecins de Gustave Roussy qui sont allés à Buc pour donner leur expérience, indiquer pourquoi les femmes pourraient avoir des douleurs pendant une mammographie pour améliorer justement ce qui a conduit à la fabrication de cette nouvelle génération de mammographie. Donc l'autocompression également, comme on l'a vu, où la femme va elle-même participer à sa compression. Tout ça, ce sont des idées qui viennent en fait du terrain. Et c'est très important. Et donc de pouvoir ensuite voir la réalisation, donc c'est un gagnant-gagnant, quoi.
Et cette opération, elle a permis de diagnostiquer des cancers du sein?
C'est rapidement, en 2023, oui. Donc pour Octobre Rose, c'était la troisième opération que nous faisions avec Generectric et puis avec nos partenaires. On a eu des radiologues de toute l'Île-de-France qui ont participé, de Gustave Roussy, des radiologues libéraux. On a pu faire 500 mammographies sur le mois d'octobre, et sur ces 500 mammographies, il y avait 39 images suspectes qui sont en train d'être explorées. Donc on n'a pas encore le diagnostic complet, mais 39 images suspectes qui sont en cours d'exploration. Et je suis très content de savoir qu'on va pouvoir renouveler l'opération pour octobre 2024.
Qui a montré un intérêt évident. Ouais. Évident. Corinne Balégué, donc vous pratiquez à Ligère un dépistage personnalisé, rapide, avec une prise en charge rapide, c'est ça?
Oui,
c'est important quand même.
Alors, dépistage personnalisé, ça c'était dans l'étude MyPeps, où selon le résultat, et notamment on combine la densité mammaire, l'analyse de la densité mammaire qui est un facteur de risque, un questionnaire où on recueille les antécédents familiaux, et on analyse par la salive, donc des polymorphismes génétiques, c'est en fait des variations d'ADN qui peuvent soit augmenter ou diminuer le risque. Et le tout combiné, pas isolément, peut faire qu'une personne est plus ou moins à risque. Et donc dans l'étude, justement, on peut adapter, c'est-à-dire faire plus de mammographie tous les ans, par exemple, si on est plus à risque, ou au contraire, espacer, donc faire une mammographie, non pas à 2 ans, mais à 4 ans, si on est moins à risque.
Mais le service que vous proposez, c'est donc un service de diagnostic rapide et de prise en charge rapide de la patiente, c'est ça?
Voilà, donc en une journée. C'est en post-dépistage, c'est-à-dire que quand une anomalie a été identifiée sur une mammographie, à ce moment-là, on essaie de caler toute l'analyse, toute la revue des examens, tous les examens complémentaires le même jour, pour que les femmes ou les patientes à la fin sachent si elles ont un cancer ou pas, et de pouvoir ensuite préparer toute la suite et toute la prise en charge. Parce que finalement, ce qui est très angoissant pour les femmes, c'est de ne pas savoir. Donc le fait d'avoir à la fin de la journée, d'avoir vu un radiologue, d'avoir eu une biopsie, d'avoir vu un chirurgien, un oncologue, finalement, on est un peu plus calé sur la suite. Et ça, c'est important de pouvoir concentrer tous ces examens rapidement.
Donc on l'a vu, cette collaboration, elle est primordiale entre les industriels, les ingénieurs, les médecins, les manipulateurs. Erika ?
Elle est clé, elle est fondamentale en fait d'être en circuit court. Alors nous, on a des équipes internationales qui travaillent, qui parlent toutes anglais, français, qui travaillent avec des centres à l'international, mais on a la chance d'avoir des centres d'excellence en France avec des collaborations rapprochées. Et on voit bien que la proximité géographique est clé, parce qu'il se passe des centaines d'allers-retours entre notre centre de Buc, aussi bien pour la mammographie que l'imagerie interventionnelle. conventionnels ou les logiciels de visualisation avancée basés sur l'IA. Les équipes sont vraiment très très connectées. Donc de là naissent les idées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et on est aussi en circuit court, nous, entre le développement, l'industrialisation et la production. Donc c'est extrêmement important d'avoir les gens qui sont connectés au plus près du terrain, de manière en fait à solutionner tous les problèmes qui peuvent se poser et amener cette innovation en vie et puis après participer à ce genre d'opération.
Alors je vais vous poser la même question à tous les trois pour finir. Comment voyez-vous le futur en fait du dépistage? Comment voyez-vous l'évolution du dépistage dans le futur?
Un dépistage, comme ça a été dit, un dépistage qui est personnalisé, individualisé, mais également un dépistage toujours continué avec le aller vers, pour toujours aller chercher les populations qui sont un petit peu exclues, notamment dans certaines régions de France ou même certains arrondissements parisiens. Ce sera déjà pas mal.
Jérôme Nicolet. Je crois que le mot clé, c'est la collaboration. C'est-à-dire vraiment qu'on ait une chaîne continue qui aille du dépistage, mais même avant le dépistage à la prévention. On a parlé tout à l'heure de l'exercice physique et de la perte de poids, qui est un facteur majeur de risque de cancer du sein. Donc moi, je dirais vraiment de collaborer à toute cette chaîne.
Oui. Corinne Balguier, pour conclure, donc, est-ce que les progrès aussi technologiques font que ce dépistage sera plus efficient?
Oui, bien sûr, parce que il sera plus efficient, il sera moins délétère, il y a moins de doses de rayonnement aussi. On travaille vraiment là-dessus. Et puis surtout, on l'a vu, la personnalisation, et peut-être qu'il faudra faire plus s'il y a plus besoin, moins s'il y a moins besoin. Et les techniques aussi vont évoluer. Et il sera sûrement en partie, je dis, personnalisé, mais avec peut-être d'autres techniques qui existent aujourd'hui. Mais je pense que la biologie aussi, associée aux images, pourra faire évoluer ce dépistage.
Sans qu'on soit quand même tracé de chez soi.
Non, bien sûr.
Ouais. Merci beaucoup, merci Corinne Balaguier, merci Jérôme Nicolet, merci Julien Lambon et merci Erika Saillant.
Avec plaisir, et moi je saluerai ma collègue Karima Santi qui a travaillé aussi chez nous d'arrache-pied pour mettre en place ce genre d'initiative du Mamo Solidaire.
Et un coucou à Laurence Contarassus quand même.
Avec bien sûr, et un message pour les femmes, ne repoussez pas votre mammographie.
Très bravo. Important. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up santé au cœur de l'innovation santé.